c'est Monsieur Previously, le public sensationnel du Studio 106. Précédemment dans On va tous y passer, Ludivine Sani et Chris Esquer, la rencontre.
J'ai toujours rêvé de parler avec Chris Esquer, donc je vais le choisir en premier.
Votre rêve va se réaliser.
Ah, là, Chris.
Shabada.
Shabada, c'est belle romance pour certains, jalousie et cruauté pour d'autres.
Jalousie, c'est très agaçante, vous êtes magnifique, alors que vous n'êtes pas coiffée. Je me demande si vous vous êtes brossé les dents.
Quoi qu'il en soit, nous fûmes heureux de retrouver notre animateur qui nous avait manqué. Aujourd'hui, il est à son poste, plus que jamais au rendez-vous. Frédéric Lopez, c'est à vous!
Bonjour, bonjour à tous! Il est 11h05 sur France Inter et je vous l'annonce officiellement, on va tous y passer. Invité de cette émission, un écrivain superstar qui nous fait régulièrement découvrir les mondes parallèles. Le savant du jour est chercheur en informatique. Il s'agit de Laurence Devillers qui vient nous parler des nouveaux robots de plus en plus sensibles aux émotions. Et pour les accueillir, je serai entouré de mes camarades humoristes que je vous présente sans plus tarder. Elle a pris bavardage en deuxième langue au collège. Mesdames et messieurs, Joséphine Drey. La gueule dure et le cœur tendre, c'est David Salles. Pour ses ennemis, elle est capable de préparer un repas gastronomique à base de rats, Sonny Chan. C'est un peu Louis la brocante, mais sans Victor Lanoux et avec le côté vide-grenier en moins. Voici Thomas VDB. Ouais. Et enfin, si ce soir le PSG bat le Barça, il lui a promis de l'emmener en vacances et en voyage de noces à Koh-Lanta. Applaudissements pour l'immense Daniel Morin et le fabuleux Richard Larnac. Mes camarades sont en pleine forme. Ils ont traversé le sud de 106, se sont installés devant leur micro. Ils vont pouvoir donner un indice aux auditeurs de France Inter puisque vous avez croisé notre invité dans les coulisses. Joséphine Drey, un petit indice.
Je crois qu'il vient du Maroc, non? Il serait pas berbère?
Oh.
Bonne journée à tous.
Yes.
David Salle.
Moi, je dirais que c'est un tout petit géant à lunettes.
Ouais, oh, joli, joli. Ah, ce matin, c'est attention, au niveau. Alors, au niveau, Thomas VDB.
Moi, j'ai bien aimé celle de Joséphine. Je crois qu'il vient du Maroc, non? Il serait pas berbère?
Ok.
Non. Et il croit qu'il va s'en sortir comme ça. Votre indice, Thomas?
Il a des lunettes.
Sonny Chan.
Alors, énorme indice, ça va être facile. Il est comparable à l'artiste hongkongais Tan Meng Lan.
Ah bah oui, tout de suite, tout de suite on percute. Daniel Morin, un indice.
Gottlieb aurait pu écrire une BD sur lui qui se serait appelée Werber Pepper.
Alors notre invité du jour est un romancier superstar. Il compte en France plus de 10 millions de lecteurs, mais ça c'est juste en France. Hein. Il sort un best-seller par an et son œuvre a été traduite dans une trentaine de langues. Considéré comme une star en Corée du Sud, il vend là-bas encore plus d'exemplaires qu'en France. Il faut dire qu'à l'école, déjà, il est fasciné par ses histoires, les histoires qu'il inventait. Il a d'ailleurs écrit sa première nouvelle à l'âge de 7 ans. Ça s'appelait « Les aventures d'une puce ». Avec ses fictions philosophiques, il nous fait voyager dans des mondes parallèles. Sa grande angoisse à lui, ce serait que les extraterrestres n'existent pas. Ce matin, il vient nous présenter son nouveau roman, « La troisième humanité ». Mesdames, messieurs, merci de faire un triomphe à Bernard Werber.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, très content d'être là.
Ça nous fait très très plaisir. On dit content parce que c'est une formule qu'on entend à la télévision, à la radio. Vous êtes vraiment content d'être là?
Yes.
Comment vous sentez? Parce que voilà, il y a beaucoup d'informations d'un seul coup. Hein. Tous ces camarades qui vous regardent avec beaucoup de bienveillance, bien sûr. Tout le public,
bonjour,
etc.
Bonjour.
Là, comme ça, tout de suite, la sensation, c'est comment?
Très bien. L'artiste hongkongais, je trouve que je ressemble pas beaucoup.
C'est au niveau de la sonorité du nom, rappelez-vous.
En fait, je dis mon nom en chinois.
Vous voyez, on ne se ressemble pas. Déjà, vous avez plus de cheveux que moi.
Bon, Bernard, on a une tradition d'hospitalité. Pour que vous vous sentiez bien, vous pouvez entendre un mot de bienvenue de mes camarades. Un petit mot gentil, il suffit de les désigner. J'adore la tête de Fayot qu'ils font à ce moment-là, cette émission. Donc, je vous laisse les montrer au hasard. N'ayez pas peur de les vexer, ils sont tout terrain.
Ce garçon, la barbu.
Moi,
il est malin parce qu'il va pas vers les sourires, il va vers ceux qui ont un peu
ce garçon barbu, ouais, m'a regardé.
Il a une sale gueule, donc je veux savoir ce qu'il va dire.
Ce qu'il a dedans. Hein, vous avez compris, elle sert à ça, cette
séquence.
Vous
avez vraiment une gueule de gentil, contrairement à moi. Et moi, à l'intérieur, je suis très sympa.
Contrairement à vous.
Non, mais du coup, on a. J'ai super envie d'être votre meilleur ami, au moins un instant, une soirée, quelque chose. Dites-moi.
Bah, pourquoi pas. Avec plaisir.
Mais ça fait plaisir, moi, je trouve. Moi, ça m'aurait fait plaisir, en tout cas.
Ça me fait plaisir.
Bon, alors, tout le monde est content.
Alors, on continue. Allez, deux autres compliments. Joséphine Dray.
Eh bien, moi, je n'ai jamais lu un de vos livres, donc on peut dire que c'est un mot gentil par déduction, parce que si j'avais lu et que j'avais pas aimé, j'aurais dit un mot méchant. Voilà.
D'accord. Le mot gentil par déduction, elle vient d'inventer un concept. Vous allez avoir envie de les lire, je peux vous le dire. Et alors, un troisième.
Monsieur,
alors là, c'est pourquoi? C'est aussi parce que vous voulez une sale gueule ou parce qu'il a une gueule gentille?
Non, parce qu'il est à ma gauche.
Daniel Brun.
Ça va se payer, Lopez, hein, ces petites insultes déguisées. Bref, Bernard, j'ai lu votre biographie. Alors. Trois choix viennent à moi. Soit vous êtes fou, soit vous êtes génial, soit vous êtes un cousin des Bogdanov. Mais dans les trois cas, je suis content de vous rencontrer, mais j'ai quand même appelé deux infirmiers pour venir vous chercher à la fin.
Sur les trois cas, vous pouvez barrer les Bogdanov. Je ne suis pas cousin avec les Bogdanov.
D'accord, ok, j'oreille.
Bon, alors, Bernard Werber, on va parler de Troisième Humanité qui cartonne déjà, évidemment, qui est sortie au mois d'octobre en librairie. C'est vrai qu'on va développer dans un instant, mais... J'essaie de comprendre à chaque fois que vous sortez un livre, comme vous n'avez plus rien à prouver à personne, dans quel état vous êtes quand vous sortez un nouveau livre, en fait? Est-ce que c'est important pour vous que les gens aiment, ou est-ce que vous avez accepté l'idée qu'un jour, bon ben ça va, les gens passeront à autre chose?
Alors j'ai accepté l'idée qu'un jour, disons, ma cote va baisser, tout ce qui monte finit par descendre. Mais dans le moment où j'écris, j'oublie complètement, un, qui je suis, deux, les lecteurs, trois, le monde de l'édition, quatre, le monde du journalisme. J'écris, je suis avec mes personnages, et la seule chose que je me demande, c'est qu'est-ce qui va leur arriver. C'est-à-dire, je suis le premier spectateur du film, et il faut que je ne m'ennuie pas moi-même en écrivant. Je crois que le travail d'écrivain est déjà un acte complet. C'est-à-dire, c'est pas on fait un livre et après on regarde si les lecteurs vont aimer, c'est on fait un livre, après l'œuvre existe. Donc je suis avec mes personnages, j'aime mes personnages, je suis ami avec eux, je déteste les méchants de mon bouquin et je vis en fait quelque chose qui ressemble assez à une schizophrénie, c'est comme un rêve, je suis dans le livre. Et ma plus grande récompense, c'est de faire un bon livre, parce que quand je vais le relire, je vais m'amuser.
C'est pas mal.
Mais j'attends rien au moment où j'ai... seul sur une île déserte, sans éditeur et sans lecteur, je continuerai d'écrire.
Bon,
parce que c'est le plaisir est déjà dans la réalisation.
Mais nous, on sera plusieurs millions sur l'île d'à côté à vous lire. Hein. Vous inquiétez pas. Alors, c'est vrai que vous nous proposez une troisième humanité dans ce livre, mais l'humanité d'aujourd'hui a beaucoup de problèmes. C'est un peu le chaos, il faut le dire des fois. Hein. Et donc, les grands problèmes de l'humanité, c'est Joséphine Dray qui est là pour les régler.
Ouais.
Okay. Quand elle a le temps de le faire, vous allez comprendre. Mesdames, messieurs, Joséphine Dray.
Attention, roulement de tambour, Richard Morin. Oui, j'appellerai également Daniel Lornac, juste comme ça pour pas tomber dans la routine. Hein.
D'accord.
J'ai trouvé la solution pour qu'il n'y ait plus aucun cambriolage en France. Les statistiques sont alarmantes. Il y aurait un cambriolage toutes les 90 secondes. Vous imaginez? À peu près l'équivalent d'un temps de coït de Daniel Lornac. Et encore, c'est quand il a bu du Red Bull. Hein. Et oui, et quand je dis Daniel Lornac, je veux parler bien évidemment de Richard Morin. Bref, avec ma solution, c'est la sécurité totale, assurer la belle vie, quoi. Et oui, et d'ailleurs, si je peux me permettre, Bernard, entre nous, si on lit votre livre, c'est aussi la belle vie assurée, quand même. Non, mais vous nous apprenez que dans l'ère précédente, on était des géants de 17 mètres de haut, même les animaux de compagnie. Non, c'est pas un Yorkshire, c'est un mammouth. Et oui, il s'appelle Pedro. Et que maintenant, on serait en chemin pour devenir des micros humains de 17 centimètres seulement. C'est-à-dire une taille plus qu'acceptable pour un pénis. 17 centimètres. Non mais attendez, on va mesurer 17 centimètres. Je dis, mais merci de nous avoir prévenus, quoi. C'est génial. Non mais déjà, niveau morphologie, moi ça m'arrange, parce que je fais un bon 42, donc je vais pouvoir passer à 1,4 centimètres de tour de hanche. Donc je vais être bonasse. Hein. Et puis, pour les hommes aussi, ça va être bien. Plus de complexe, les gars. Vous aurez tous un micro-pénis. Tous. Même les acteurs de porno. Hein. Les différences de taille se joueront à quelques microns. Hein. C'est-à-dire pot de zob, quoi. Du coup, Bernard, moi j'ai déjà tout prévu, pas bête. Je suis allée chez Jouet Club hier, je me suis refaite ma garde-robe pour que dalle. Eh ouais, j'ai acheté tous les vêtements de la collection Barbie Fashion, même la robe de princesse. Bon, c'est un peu surfait, il y a beaucoup de paillettes, mais à 8 euros la robe du soir, j'ai pas pu résister. En plus, ils donnaient un champ en plastique. Donc bon, et comme je suis assez people comme fille... Bah, j'ai fait péter le jet de Barbie pour me déplacer. Eh ouais. Faut juste que je termine de mettre les autocollants dessus, mais ça va claquer. Ah, mais non, wow. Non, mais ce sera pas pour tous les jours non plus. Hein. Non, je vais rester simple au quotidien, je serai motorisée. J'ai acheté un hamster, je fous une selle dessus et en avant la cavalerie. Hop, à Créteil. Non, je déconne. Parce que Créteil à dos de hamster, c'est quand même 4 jours. Hein, donc, on se calme. Mais ce qui est pratique, c'est que sa cage va devenir ma salle de fitness. Bah ouais, je cours dans sa petite roue, je fais des tractions au barreau, je me roule dans la paille, au top, quoi. Ah. Faudra quand même penser qu'en termes de distance, on est d'accord que tout va nous sembler plus long si on a des toutes petites jambes. Ah ben ça, j'y ai pensé. Ouais, allô, t'es où? Ligne 1 à Châtelet? Bon, prends le TGV de nuit jusqu'à Concorde et on se capte. Ouais, moi j'arrive en fusée G.I. Joe de Toulouse. Bisous. Non, mais sinon, que des avantages. Il n'y aura que des avantages, Bernard. Règle mon appart. C'est un 18 mètres carrés kitchenette. Bah là, je vais pouvoir l'aménager en mode château de Versailles. Tout va me paraître spacieux. 32 mètres sous plafond. À l'aise la mezzanine. Et j'aurai même une piscine olympique. Et ouais, la classe. Enfin, une baignoire, quoi. Et même une salle de cinéma, rien qu'à moi. Bah, j'accroche mon iPhone sur un mur et hop, ciné-cité en Dolby Surround. On matera des films en mangeant un pop-corn ou une chip. Mais pour les pauses pipi, ça se prévoira la veille. Hein, parce que, tiens, passe-moi le GPS, je vais aux toilettes. Allez, à demain. Mais ce qui est cool, c'est que comme j'aurais fait des économies avec les habits et la bouffe, bah, je pourrais certainement passer proprio et m'acheter un joli 38 cm carrés avec jardin tropical, enfin un pot de fleurs quoi. Vous savez Bernard, si j'étais vous, j'aurais pas trop ébruité l'info hein, parce que là il y a un vrai business à faire, l'immobilier ça va être dingue. Le prix au centimètre carré risque d'exploser du coup, ça va être la belle vie. Hein. Moi j'ai vraiment hâte qu'on rétrécisse. Hein. En plus j'ai toujours rêvé de pêcher en mini-moy et de faire des barbecues avec Mimimati. Voilà. Oh là là mon dieu, mais Mimimati. Mais elle va disparaître du coup. Oh bah pour ça j'ai pas la solution. J'ai pas la solution pour ça, mais par contre pour les cambriolages oui. Alors niveau statistique, j'y reviens. Alors tout ce qui est cambriolage en France.
On a plus le temps sur le.
J'ai mis trop de
merci
temps.
Merci beaucoup non, Joséphine Drey. Joséphine Drey.
Elle était lancée hein.
Alors,
elle s'est lancée là sur les poupées Barbie, sur les hamsters.
Mais tout ça, c'est à cause de vous. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce livre, vous avez imaginé ces humains de 17 centimètres. Non, 17 centimètres.
17 centimètres, ça fait près une main.
Ben oui. Il y a plein d'applications.
Elle les a vite vues. Hein.
Ça aurait pu être un complément à votre livre.
Bah, c'est le deuxième volume qui avait été écrit là.
C'est un petit bonus humoriste. Ouais. Dans toutes les langues, attention, maintenant, toutes vos blagues vont être traduites en coréen.
Waouh, hein? J'adore.
Non mais c'est vrai, il faudra envoyer ça en Corée.
Et
en,
oui, bah, je vais y songer.
Il et en hongkongais aussi.
Alors, on va parler de ce livre, Troisième Humanité. Mais pour que tout le monde soit très attentif, déjà qu'il y a trois récits à raconter en même temps dans le livre, on va en plus corser le tout avec des mots que mon camarade va vous donner. C'est M. Prévussy qui est là-bas. Alors, pour ceux qui sont des auditeurs qui ne l'ont jamais vu, vous le décririez comment, M. Prévussy, l'homme qui s'agite là-bas au bout?
Super beau.
Oh, ben voilà. Il l'avait jamais entendu.
Enfin.
Avec une séduction naturelle qui sort du foulard peut-être.
Exactement. Alors Monsieur Prévussy, les cinq mots.
Les cinq mots sont tafo, exposition, calculatrice, gâchis et Batavia. Bon courage Bernard Berber.
Alors j'ai une question stupide à vous poser, mais c'est quoi tafo?
Je ne vous le dirai pas.
Non, mais personne ne sait en fait. Hein.
Ah bon, il y a un mot bizarre dans
voilà.
Le tas.
Soyez de mauvaise foi et on verra ce que ça donne.
Bon, il faut alors, que je le place n'importe quand dans la conversation.
Dans les 5 prochaines minutes.
Dans les 5 prochaines minutes. Il y a top et puis il a
top touché. Départ. Donc, Bernard Werber, Troisième Humanité, je vous laisse vous faire le pitch et après je vais voir un peu comment je...
À partir de maintenant, il faut que je place ta
faute. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, voilà, je vous laisse vous débrouiller. Il y en a qui placent les mots au début, d'autres plus tard. Soyez comme vous le sentez. Mais juste, peut-être moi, à mon avis, pour le pitch, il vaudrait mieux pas placer de mots, sinon on va rien comprendre. Juste le pitch, allez-y.
Le pitch de Troisième Humanité. Alors d'abord, je voudrais être sûr de ne pas avoir tout faux.
Oh, pas mal.
C'est un presque bon.
Bravo. Pas mal. On est gentil.
Et de faire une bonne exposition.
Ouais, pas mal.
Maintenant,
vous avez fait le choix de vous débarrasser de tout au début.
Maintenant, pour parler de Troisième Humanité, il faut que je réfléchisse en calculatrice parce que il y a quand même une problématique qui est de tout réduire de 2x10. Donc il y a un ratio qui est 17 mètres, c'est la première humanité. 1m70, c'est la deuxième humanité. Et 17 cm, la troisième humanité. Et entre les différentes tailles, il ne faut pas qu'il y ait de gâchis, évidemment.
Voilà, les cinq mots sont placés.
Non,
il en reste un. Mais qu'est-ce qu'ils mangent tous ces gens?
Il en reste un. Alors, ce qu'ils mangent, ils mangent de la choucroute, ils mangent de la paella et ils mangent un peu de Batavia.
Voilà, les cinq mots ont été placés. Alors,
surtout de la Batavia.
Alors, plus sérieusement, alors allez-y, parce qu'il y a les intrigues et puis après il y a la philosophie derrière tout ça, mais juste les intrigues, je préfère que ce soit vous qui le disiez.
L'intrigue, c'est j'ai deux héros qui s'appellent David et Aurore, qui sont deux chercheurs qui pensent que l'avenir de l'humanité, c'est plus féminin, plus petit et plus solidaire. Et ils s'inspirent de ça, en fait, d'observation des insectes, parce que, au hasard, les fourmis étaient sur Terre il y a 120 millions d'années, l'homme est sur Terre depuis 7 millions d'années, et ils se disent que nous, dans le futur, nous allons faire les mêmes choix que les autres civilisations de la Terre, donc les fourmis.
Les dinosaures sont devenus des lézards, donc nous, voilà. Ça sera la même chose.
Mais toutes les espèces, lorsqu'elles ont des problèmes, réduisent de taille. Là, actuellement, on grandit de taille parce qu'on mange mieux, mais c'est un tout petit phénomène. Mais si on regarde, en effet, les dinosaures sont devenus des lézards, les mammouths sont devenus des éléphants, les libellules de 2 mètres d'envergure sont devenues des libellules de 20 cm. Et on assiste, par exemple, à une chose, c'est qu'actuellement, vu qu'il y a de plus en plus de pollution dans les océans, tous les poissons sont en train de réduire de taille. C'est une forme d'adaptation. C'est comme si la Terre, quand une espèce lui casse les pieds ou quand elle stresse une espèce, celle-ci automatiquement devient plus petite pour moins la gêner. Donc tout à l'heure, quand Mademoiselle parlait de gens qui s'habillent en poupées, il faudrait imaginer une humanité de 7 milliards de personnes qui, forcément, étant plus petite et s'habillant en Barbie et en Ken, ferait moins de pollution et ferait moins de dégâts.
On serait tous beaux en plus.
Bah voilà. Ouais, du coup, on serait sapés, mais grave.
On serait tous glam. Alors
l'intrigue, c'est la mise au point de cette nouvelle humanité. Et après, quel statut donner à ces petits êtres? Est-ce que ce sont des êtres humains comme nous? Est-ce qu'ils ont un droit de vote? Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir un État indépendant? Est-ce qu'en fait, ce sont juste des expériences de laboratoire? Ou est-ce que ce sont des partenaires de vie sur Terre?
Bon, et puis la Terre, ce qui est très émouvant, c'est que vous la faites, elle s'adresse à nous, comme si on était des enfants d'ailleurs. Et puis elle nous parle, parce que la Terre, bon, c'est une dame qui aurait, d'ailleurs, d'après un géologue ici, si la Terre était une dame qui avait 36 ans, c'est Bernard, il s'appelle comment, Weber? Notre géologue, vite, j'ai un trou de mémoire en anglais.
Qu'est-ce qu'il s'appelle?
Non, mais il s'appelle comme vous, je m'en
fous. C'est Patrick de Weber.
De Weber, pardon, Weber, excusez-moi, il s'appelle pareil en plus. Non. Bon, enfin, et il nous explique que l'espèce, on est les derniers arrivés, quoi. Et qu'on serait les premiers partis.
Oui, mais notre espèce a à peu près... Bon, les plus anciens humains sont depuis 7 millions d'années, mais nous existons depuis 2 millions d'années. Et en gros, une espèce humaine... Enfin, une espèce sur Terre vit entre 2 et 3 millions d'années. Donc normalement, notre espèce, elle a fait un petit passage. Nous sommes dans ce petit passage, mais ce n'est pas dit qu'on perdure. Mmh. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre exemple sur les espèces qui ont perduré. Mais vous savez aussi, il y a d'autres espèces humaines, comme le Néandertal, qui est le plus connu, mais aussi l'homme de Flores, qui sont des êtres humains qui sont apparus, qui n'ont pas trouvé l'adaptation, qui ont disparu. Et ça ne change rien pour la Terre. La Terre, pour elle, c'est juste comme des petites puces ou des petits moustiques qui étaient là, qui n'y sont plus. Nous sommes des parasites d'un gros truc qui a 4,7 milliards d'années.
Voilà, et ce gros truc donc parle à une conscience dans ce livre et parle effectivement de tout ce qui se passe. Aïe, il y a un forage, je la tiens, au pôle Nord ou au pôle Sud.
Elle n'aime pas qu'on lui prenne le pétrole parce que le pétrole, c'est sa mémoire et son sang noir. Et compare ça en effet aux moustiques qui nous prennent notre sang. L'humanité, en lui prenant le pétrole, surtout juste pour faire vroom vroom avec des voitures, ça lui semble un gaspillage. Mais en même temps, elle a un projet pour l'humanité et voudrait que l'humanité la protège des astéroïdes. Parce que notre Terre, elle a peur des astéroïdes. Il faut voir que les astéroïdes, c'est ce qui a fait muter les espèces. Si les dinosaures ont disparu, c'est pas seulement parce qu'ils étaient trop gros, c'est parce qu'il y a un astéroïde qui est arrivé et qui a changé un peu la gravité de notre Terre. Bon. Donc les espèces mutent avec les astéroïdes et la Terre pense aux astéroïdes.
Bon, évidemment, derrière tout ça, il y a beaucoup de messages, puisque vous avez quasiment inventé un genre, la fiction politique. Et les jeunes adorent parce qu'ils ne s'en rendent pas compte qu'ils apprennent plein de choses et qu'ils prennent conscience de plein de choses. Et de quoi, au fond, vous avez envie qu'on prenne conscience? C'est de cette idée qu'effectivement, la Terre n'est pas illimitée, que c'est un être qu'on respecte pas beaucoup. C'est pas un objet sur lequel on se trouve, en fait.
C'est pas un objet sur lequel on se trouve. Nous pouvons considérer la Terre comme une partenaire. En fait, il faudrait qu'il y ait une représentation de la Terre à l'ONU. Là actuellement il y a des creusements pour le gaz de schiste pour trouver du pétrole dans des tas d'endroits et personne ne se dit on est en train de foutre en l'air le socle sur lequel on est posé et, parce qu'il n'y a que des intérêts nationaux, des intérêts économiques, mais il n'y a pas de réel intérêt pour la Terre. Et la Terre d'ailleurs à un moment a dit qu'elle est très déçue par les écologistes qui sont dans un combat politique alors qu'en fait ça devrait être une évidence. Nous devons soigner l'endroit où nous vivons puisque c'est là où vont vivre nos enfants, et c'est ce qui nous fournit l'air, l'eau, les végétaux, la viande. Nous sommes nourris par cette planète, nous ne disons pas merci. Voilà, ce que je propose dans Troisième Humanité, c'est qu'on reprenne conscience de qui on est, et qu'on remercie la planète qui, depuis le départ, nous nourrit et nous fait vivre.
Voilà, non seulement il y a des messages, c'est très documenté, on apprend des choses, c'est haletant, puisqu'effectivement, vous faites partie de ceux, ils sont très rares, quand on ouvre un de vos livres, on ne le termine pas. Mesdames, Messieurs, c'est Bernard Werber, Troisième Humanité. Ce que je voudrais dire, c'est que on est très heureux pour vous parce que vous avez réussi à placer les 5 mots, donc vous avez gagné. Vous êtes bien battu. Est-ce que vous savez ce que vous avez gagné, Bernard?
Non.
Vous allez savoir dans un instant. Auparavant, Tafo, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Tafo.
Tafo.
Donc Tafo.
Tafo, personne n'a
l'idée. Non. Personne n'a idée.
Non.
Tout le monde s'en fiche. Eh bien, Tafo, c'est une sorte d'engrais constitué d'excréments d'oiseaux de basse-cour.
Ah
oui.
D'accord.
Ah bon, on avait des excuses alors.
Alors, qu'est-ce que vous avez
c'est
gagné?
C'est du guano.
Non.
Du guano de poule.
Du guano de poule. Ah,
il prend un air très assuré même quand il ne sait pas. Attention.
Oui.
Vous avez gagné quoi? Vous avez gagné une minute dans le fauteuil de Monsieur Previously. Vous allez tout comprendre en vous rendant vers là-bas. Mesdames, Messieurs, Bernard Werber, Monsieur Previously.
Bonjour Bernard Werber, installez-vous, je vous en prie. Nous allons jouer ensemble à un petit jeu. Un jeu dans lequel vous n'êtes plus Bernard Werber et je ne suis plus Monsieur Previously. Vous êtes Pete Barrows, inspecteur expert en affaires non conventionnelles. Vous arrivez sur le site d'un crash d'un objet volant non identifié. Vous êtes seul. Il n'y a personne, à part moi, John, votre collègue, qui vous parle dans le talkie-walkie. Pete, tu me reçois?
Oui, je te reçois.
Pete, qu'est-ce que tu vois, Pete?
Je crois qu'ici, il y a eu des gros problèmes. Tout est détruit sur à peu près 25 km de diamètre et je vois que ça fume un tout petit peu sur la droite.
Ça fume sur la droite. Il y a peut-être quelque chose. Vas-y, qu'est-ce que tu vois?
Alors, tout d'abord, j'ai l'impression qu'il y a des silhouettes bizarres dans le brouillard.
Quoi?
Des silhouettes qui sont lumineuses. Je ne comprends pas pourquoi c'est lumineux, mais tu devrais venir.
Pete!
Rappelle-moi ton prénom.
Je suis John, voyons-nous travailler ensemble depuis 20 ans maintenant, Pete. Tu commences à perdre la mémoire, tu es sûr que tu es à jeun?
John, je crois que ces entités ont agi aussi sur ma mémoire, car en effet, j'avais oublié que tu t'appelais Bill.
Je m'appelle John, Pete. Bon, Pete, essaye de rentrer en contact avec eux. Qu'est-ce qu'elles font là?
Eh bien, William, je crois que actuellement, elles sont...
Je m'appelle John, Pete.
Elles sont en train de construire une tour Eiffel.
Quoi?
Mais cette tour Eiffel, je comprends pas bien.
Elle ressemble à quoi?
Elle est toute rouge. Elle n'arrête pas de monter. Elle a de longues ailes. Attends, tu sais quoi? La tour Eiffel est en train de décoller.
Quoi?
En battant des ailes. Et on dirait qu'il y a plein de petites choses en dessous qui sont accrochées. Attends, je vais faire une photo avec mon smartphone parce que ça va faire rigoler les amis.
Pete, le chef me demande des explications. Est-ce que je le dis à la presse, oui ou non?
Écoute, Franck, je crois que c'est trop grave pour que tu le dises à la presse. Pour l'instant, rejoins-moi, on va faire des photos rigolotes de cette tour Eiffel avec des ailes et toutes ces petites entités en dessous en train de traîner. Et ce que je te propose, c'est qu'après, on fasse une sorte de déco pour la salle de bain.
D'accord.
Bernard Werber, Monsieur Previously et Richard Larnac. Ah là, vous vous êtes éclaté, Monsieur Previously. Hein.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que ça vous a donné des idées pour un prochain livre?
J'ai un petit souci, moi, c'est que j'ai trop d'idées. Mon travail consiste à virer les mauvaises idées et essayer de regarder les bonnes.
Il écrit deux romans par an et en publie un seul. Bernard Werber. Donc, comment vous avez vécu l'expérience?
Ah, j'aime bien. Surtout, je m'y attendais pas.
Mais j'ai trouvé que physiquement, vous vous ressembliez.
Lequel des deux flatté?
Moi, je trouve que Bernard ressemble à un Monsieur Previously propre.
Merci, Daniel. Merci beaucoup.
C'est vrai qu'ils ont l'air tous les deux très intelligents. Il y en a un qui l'est vraiment. Alors, je vous propose maintenant d'écouter de la musique. J'ai pas dit de nom, attention. Marion Bilbao qui t'est choquée. Marion.
Bonjour Bernard Werber. Moi, je vous propose une balade sur Mars pour changer un petit peu d'atmosphère. Mars, c'est le titre du premier album de cet artiste d'origine soudanaise qui vit aujourd'hui à Brooklyn. Mars, c'est du groove, hypnotique, expérimental, qui semble vraiment venir de l'espace. C'est une décharge musicale comme je les aime, totalement inclassable. Ça s'écoute et ça se danse. Sin Ken. Da 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 Et ces musiciens, Simken sera en concert ce soir au Point Éphémère à Paris, à Dijon le 13 avril, à Lille le 14 avril et à Lyon le 21 avril.
Merci, merci beaucoup. Je vous ai vu planer, Bernard Werber, ou j'ai rêvé?
Ah, j'adore ce genre de musique, c'est vraiment excellent.
Alors, tous les jours dans cette émission, on reçoit un chercheur, un scientifique, c'est pas pour vous déplaire, vous étiez journaliste scientifique avant d'être écrivain. Oui. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est chercheur en informatique. Alors, on dit chercheuse en informatique.
Je crois qu'il est dans les robots, on a un peu discuté dans les coulisses, et justement, c'est un domaine qui me passionne, mais elle fabrique des robots à émotion.
Exactement. Mesdames, messieurs, je vous demande de faire un triomphe tout de suite à Laurence De Villers. Laurence De Villers. Laurence De Villers est professeure en informatique à l'université Paris-Sorbonne. Elle effectue des recherches au LIMSI CNRS sur ces robots dont elle va nous parler dans un instant. C'est assez fascinant, évidemment. Bonjour.
Bonjour à tous.
On vous laisse vous installer tranquillement. Quand je dis tranquillement, c'est une formule. Hein. Je voulais vous installer tranquillement. Comme on est en direct, on a envie de savoir deux, trois choses très rapidement pour que les gens aient envie de rester avec nous. Après, on va développer dans un instant. Donc, c'est vrai que ce que vous faites, on ne savait pas que ça existait vraiment. En fait, on pensait que c'était que dans des livres de Bernard Werber. Donc, vous étudiez les robots. Et quel est le rapport avec les émotions? On va développer tout à l'heure, hein, mais le rapport entre les robots et les émotions.
En fait, on essaie de donner aux machines des capacités en fait, de détection, de génération et de raisonnement en utilisant des émotions.
Des capacités de ?
De détection des émotions des personnes.
Et de génération.
De génération, c'est-à-dire qu'ils soient expressifs aussi émotionnellement. Et puis, on essaye aussi de construire des systèmes d'intelligence artificielle qui utilisent non pas seulement des informations rationnelles, mais des informations aussi émotionnelles. Donc, c'est à peu près ça le scope. Ça s'appelle... l'informatique émotionnelle, affective computing, c'est né il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, au MIT, en 1997, avec un bouquin qui était écrit par Rosalind Picard, donc chercheur au MIT.
D'accord. On va parler de ça dans un instant. Ça vous intéresse, ces camarades, ou pas?
Je trouve ça bizarre. Je trouve bizarre, madame.
C'est peut-être pas une vraie dame.
C'est peut-être le premier prototype du robot.
Ah non, pitié, pas ça.
La première invitée robot, c'est le laboratoire. C'est CNRS qui nous fait une blague. Le 1er avril, c'était hier. Bon, petit décalage. Alors, on va parler de ça dans un instant. Mais auparavant, parce qu'il donne un récital de chansons de Daft Punk en ce moment, il est donc bien placé pour nous parler des robots aujourd'hui. Mesdames, messieurs, Thomas VDB.
Bonjour à tous, bonjour Bernard Werber, bonjour, bonjour Laurence de Villers. Laurence de Villers, merci de votre présence ici aujourd'hui. Vous êtes venu pour nous parler donc de la vie près des robots et combien les robots vont bientôt pouvoir donc avoir cette capacité déduction, combien les robots nous aident déjà et nous aideront bientôt encore plus finalement dans notre vie quotidienne. Donc je crois que c'est pour moi le moment de révéler la vérité quant à toutes les sketchs, toutes les chroniques que j'ai fait sur France Inter depuis des années, puisque mes chroniques, je les fais tout simplement avec ma machine à chronique. Hein, j'ai une machine à chronique, on met le nom de l'invité dedans, le thème du jour et la chronique sort toute faite. Alors pour la première fois, si vous voulez, en direct, je vais utiliser et mettre en marche cette machine à chronique. Rétro-injecteur à grosse vanne, activé. Transmutateur à jeu de mots moisi, activé. Réglage des calembours. Convecteur à blague de monsieur et madame ont un fils, activé. Et c'est parti. Bonjour Laurence de Villers. Attendez, elle est réglée un peu fort, je vais la baisser. Voilà, donc j'ai regardé hier un documentaire sur les robots qui s'appelle Vivre avec les robots, qui montre combien les robots nous aident déjà et qui vont nous aider encore plus. C'est vrai que je vois un moment un robot qui va faire du café pour quelqu'un, c'est hallucinant. Et mais c'est pas une blague, c'est vrai. Et c'est des robots à l'apparence en plus en plus humaine. C'est fou. Il y a un Japonais qui fait des robots qui sont des répliques même d'êtres humains et qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Alors le mec, en plus, les filles qu'il a fabriquées, comme par hasard, c'est des grosses bombes atomiques. Hein, bah oui, comme par hasard, évidemment, des grosses bombes atomiques. À mon avis, il a dû bidouiller pour qu'elle lui obéisse pas, que au doigt et à l'œil. Hein, je vais pas dire que c'est à se demander ce qu'il peut bien faire d'elle le soir quand il rentre chez lui, mais pas loin. Hein, c'est vrai que quitte à se prendre la tête à faire un robot, autant faire une jolie meuf. Hein, c'est vrai que ce serait louche d'aller chez un gars, tu rentres chez lui et dans le salon, à côté de la cheminée, t'as la réplique exacte de Angela Merkel, qui est là, Guten Tag. Voilà, et ça ferait un peu bizarre. C'est vrai que le gars dans le documentaire, il s'est fabriqué même une réplique exacte de lui-même qui bouge et qui parle. Un clone exact de lui-même. Je sais pas si vous imaginez ce que ça voulait dire. Imaginez ce que ça peut vouloir dire, Frédéric Lopez. Plus besoin de partir au bout du monde avec Gérard Jugnot. Ce sera une réplique exacte de vous qui irait. Gérard, j'ai le plaisir de te souhaiter la bienvenue chez tes nouveaux amis, les pygmées. Voilà. Et les pygmées seraient comme ça en contact avec un robot. Alors, il faut quand même préciser que dans le documentaire, il a aussi présenté le robot le plus perfectionné qui existe dans ce documentaire que j'ai regardé, qui s'appelle Asimo. Alors lui, c'est pas un gros canon du tout, hein, c'est juste un vrai robot avec une apparence de robot. Enfin, c'est pas un canon pour nous les humains, c'est peut-être un canon pour un robot. Je sais pas si Robocop ou Asimo dans la rue, il va peut-être y avoir une petite turbine qui va sortir comme ça. Voilà, donc Asimo, il a une apparence de robot, mais il se déplace exactement comme un être humain. Laurence de Villers, c'est ça qui est étonnant. Un pied devant l'autre, il reproduit exactement la mobilité de l'être humain à ceci près. Alors dites-moi si je me trompe, Laurence de Villers, à ceci près qu'il marche vraiment, ce robot, comme s'il allait faire caca dans environ 20 secondes. C'est-à-dire, c'est quand même fou que les gars, les scientifiques, ont fabriqué ce robot le plus perfectionné du monde. Ils ont tout géré au moindre détail, sauf à ce détail près, qu'on a l'impression qu'il va se faire dessus dans 20 secondes. Vraiment. C'est comme si les derniers soubresauts avant de tout lâcher, j'aime mieux vous dire que si on finit par donner l'apparence humaine au prototype d'Asimo pour l'avoir toujours avec nous pour nous aider dans notre quotidien, ça risque de faire une présence assez oppressante dans la maison. Hein, la tête des invités quand ils voient ton gars qui n'arrive pas à sortir de son problème toute la soirée. Là... Voilà, évidemment, c'est assez tendu. Hein, mais j'imagine que plus la science avance et plus le problème va se régler. Hein, peut-être que dans 20 ans, on inventera peut-être des robots qui marchent comme s'ils allaient faire caca dans 3 minutes. Après, plus tard, dans 20 minutes. Hein, peut-être qu'un jour, on inventera des robots qui marchent comme s'ils sortaient des toilettes. Hein, fiers et guilleraient. Voilà, peut-être, on ne peut pas savoir. Voilà, donc pour terminer, si vous permettez, je vais réenclencher ma machine à blague, mon robot à chronique. Je vais enclencher tout de suite le convecteur à blague de monsieur et madame. Monsieur et madame de Villers ont une fille, comment s'appelle-t-elle? Laurence, bien sûr. Oh, elle était réglée sur un seulement, désolé. Bonne journée à tous, merci.
Thomas VDB. J'ai beaucoup aimé... Laurence de Villers, chercheur au CNRS, j'ai beaucoup aimé votre attitude. Là, vos collègues ne vous voient pas à la radio, vous avez le droit de rire. Hein. Elle s'est retenue pendant toute la chronique, mais de temps en temps, ça lui échappait. Alors, c'est vrai qu'on essaie d'imaginer votre quotidien, ça fait rêver, ça fait fantasmer, ça fait peur à certains. Donc, racontez-nous un petit peu comment ça se passe au CNRS quand on utilise ces robots. Là. Vous arrivez dans quel genre d'environnement ?
Alors déjà, je vais faire un petit point par rapport à la chronique d'avant, si vous voulez bien.
Quand vous avez parlé... je veux pas. Allez-y.
Du robot de Honda, effectivement, je suis d'accord avec vous, la marche est terrible, c'est pas du tout sexy.
Asimo, là, mais c'est exactement ce que je dis, excusez-moi, mais on a vraiment l'impression d'avoir vite du papier toilette.
Mais effectivement, c'est des belles vitrines, on s'en sert pour montrer de la technologie de haut niveau, et en général, ça marche dans des environnements très contraints. C'est-à-dire qu'en fait, si vous changez les marches, par exemple, le robot, il ne peut plus monter l'escalier. Ou si vous dialoguez d'un autre sujet, il ne va rien comprendre. Donc, c'est vraiment maîtrisé dans des cadres très particuliers. Donc, il y a des vrais challenges pour améliorer ces robots, comme vous l'avez vu, hein, même sur la marche, mais aussi sur les aspects cognitifs, pour leur ajouter des compétences de perception et de cognition. Et ces challenges, et surtout s'adapter et être autonome. Et ces challenges, c'est des challenges qu'on essaie de prendre à cœur dans la communauté française, puisqu'en fait, on est assez bien placé sur l'aspect robotique cognitive. Donc, par exemple, si vous connaissez Nao, parce que Nao, il est sexy.
Ah, on parlait de Nao.
Donc, Nao, c'est un petit robot humanoïde de 48 cm. Bon, alors, trop grand pour les troisième génération, la troisième humanité, mais quand même, ça sera un géant. Mais enfin, pour les deuxième humanité qui sommes nous, c'est un petit robot. Mm-hmm. Et donc, on cherche à développer son grand frère, justement, qui va s'appeler Roméo, un peu galant. Il fera 1m40 et c'est vraiment nos sujets de recherche.
1m40
Moi, je pêche. Alors, attendez, ça, c'est voulu. On ne veut pas faire des robots qui font peur, c'est vous qui l'avez dit. On ne va pas faire des grands robots. On va faire des robots qui sont des robots assistants, compagnons, qui vont rendre service. Et donc, on les fait un peu plus petits. C'est intéressant, la comparaison avec votre livre. Donc, Nao, pour revenir à Nao, vous ne l'avez pas vu. Et pourtant, Nao, il a eu la chance de faire le tour du monde dans la course du Vendée Globe d'Initiative Cœur avec Tanguy de la Motte. Ça vous
non.
dit rien?
Non. Oh. Ah là, si vous aviez tout misé là-dessus, on est mal.
Non.
Il y a beaucoup de moments où vous nous demandez si ça nous dit quelque chose. Partez du principe que rien ne nous dit rien.
Ok.
Alors, c'est dans le texte. Parce que là, c'est vrai.
Alors Nao, il est aussi utilisé à des buts thérapeutiques. Donc, Aldébaran Robotics a développé des partenariats avec des familles, des thérapeutes et des enfants qui ont des problèmes d'autisme, par exemple. Et on s'en sert donc pour accompagner des enfants, chercher à développer mieux l'autonomie chez eux, l'acceptation sociale.
C'est comme un ami.
Pardon ?
C'est comme un ami.
C'est comme un ami, voilà.
Il dialogue avec l'enfant.
Il dialogue avec l'enfant et c'est même un médiateur vis-à-vis d'autres personnes
qu'il
aurait à rencontrer.
Donne-nous des exemples.
Sur l'autisme ?
De situations ? Non, non, de situations.
Non, non, d'autres situations. Je vais continuer à développer un peu. Parce qu'en fait, les robots, là, pour l'instant, vous les voyez comme ça, comme des machines qui servent à rien, en fait, qui ne marchent pas bien. Mais il y en a beaucoup qui sont utilisés pour des buts thérapeutiques. Et donc, pour lesquels on essaie de développer effectivement un aspect cognitif intéressant, qui soit capable de comprendre un peu plus que les mots qu'on est en train de leur dire.
Et pour ceux qui ne connaissent pas le mot cognitif, vous diriez quoi ?
Pardon,
quand même, frère.
Si on ne connaît pas le mot cognitif, vous diriez quoi ?
Moi, je ne connais pas le mot.
C'est vrai ?
Moi, je dirais le mot poivre, mais ça n'a rien à voir.
Non, non, expliquez.
Et vous diriez quoi ?
Bah non, c'est rapport à la connaissance. Que de...
bah oui.
Ah. Merci, merci.
Bah, j'ai mon bac.
mais pas chez nous.
Donc, ces robots donc, qu'on essaie de rendre plus intelligents cognitivement, ce qui est le vrai challenge, on veut leur donner des moyens de comprendre mieux les humains, de réagir et de s'adapter à eux, et non pas l'inverse. Et on veut aussi leur donner des capacités de gestion de relations affectives, si vous voulez, à plus long terme, et de capacités d'autonomie. Donc ça, c'est les vrais challenges. Ça, c'est les futurs robots.
Est-ce que vous pouvez mettre à la poubelle la plaquette que vous avez sous les yeux et nous parler à nous, parce que j'avoue que...
Mais c'est pas un peu antinomique de dire robot et sentiment ? C'est un petit peu étrange.
Oui. Voilà. Le robot, il va rien ressentir, c'est clair. Ce qu'on essaie de lui donner, c'est en fait la compréhension des autres. Moi, je travaille principalement sur le langage. Et en fait, à travers le langage en interaction face à face, il y a 80% de ce que l'on communique qui est lié en fait à des signes non-verbaux. Dans la voix, j'élève ma voix, il y a une mélodie, une musique de la voix qui est très informative. Si je me mets en colère, vous allez l'entendre tout de suite. Et le mon faciès, mes gestes, etc. Donc c'est ça qu'on essaie de décrypter dans les machines. L'informatique émotionnelle, c'est détecter tous ces signes, essayer de donner au robot ou à la machine les connaissances de l'état de la personne pour
pouvoir mieux s'adapter, mieux répondre. Vous améliorez, vous travaillez sur des capteurs.
Pardon ?
Vous travaillez sur des capteurs qui savent si la voix est plus forte,
on
si
travaille
elle est
moins forte. Sur à la fois les capteurs, à la fois sur des modèles statistiques, des réseaux de neurones, pour apprendre. En fait, on fait des machines qui apprennent les différentes inflexions qu'on va avoir dans les différents types d'émotions, pour pouvoir ensuite les détecter. Je ne sais pas si c'est...
C'est super clair. On aime bien les exemples. Allez-y. Donnez-nous un exemple.
Comment est-ce qu'un robot peut savoir si quelqu'un est triste, par exemple, en face de lui ?
Parce qu'en fait, j'ai enregistré un grand nombre de gens qui étaient tristes, en plein de situations, des centaines de voix, que j'extrais du signal audio des informations très, très fines sur le timbre de la voix, sur le rythme de la voix, sur l'énergie de la voix. Et quand une voix est triste, elle devient plus lente, plus... il y a des hésitations, il y a un timbre qui est beaucoup plus bas.
Et alors, ça sert à quoi d'avoir un robot qui va reconnaître si on est triste, si on est heureux, si on est en colère ? Qu'est-ce qu'il va faire,
le robot ? Par exemple, pour les enfants autistes, pour essayer de les stimuler, pour les personnes âgées, pour essayer d'alerter en cas d'urgence s'il y a des problèmes. C'est des choses comme ça.
Et comment un robot il va faire pour deviner si quelqu'un, par exemple, a envie de faire caca ? Si lui, la base, c'est quand il marche déjà, on a toujours l'impression qu'il va faire caca.
Moi, j'ai pas de machine qui permet de répondre à ça.
Il peut y avoir des capteurs odorants, mais sinon, ça existe déjà.
Ben, qu'est-ce qui se passe, Bernard ?
Il a raison, j'y avais même pas pensé.
Mais je veux dire, l'enjeu, c'est pas sur la forme Android. Le vrai enjeu, c'est en fait de créer un robot qui puisse être pratiquement un psychologue ou un psychanalyste. Et moi, je me rappelle, quand j'étais journaliste scientifique, dans les années 90, il y avait un programme qui s'appelait Dr. Sbaitso, qui me disait « Bonjour Bernard, quel est ton problème aujourd'hui ?» Je parlais en langage naturel, et le robot me disait « Ne crois-tu pas que ton vrai problème n'est pas là ?» Mais... C'est-à-dire, il reformulait les questions.
Vous ne croyez pas que c'était votre femme qui était en train de vous parler ?
Et je crois qu'on va avoir ça dans les 4 à 5 ans à venir, c'est-à-dire un petit logiciel dans son iPhone ou dans son ordinateur qui va avoir une véritable présence réconfortante comme un ami
et qui va
vous aider à exprimer vos problèmes.
Siri fait de la reconnaissance vocale, hein. Pas de la compréhension. Il faudra lui rajouter, effectivement.
Mais on est très près de ça. On n'est pas dans la science-fiction, c'est-à-dire qu'il y a un moment, peut-être qu'on aura... Vous savez, comme les photomatons, vous avez un petit souci personnel, vous rentrez dans un photomaton, vous mettez une petite pièce, et la machine commence à vous psychanalyser sur un temps. Et je crois que ça, on va l'avoir. C'est pas de la science-fiction.
Vous êtes d'accord avec ça, Laurence ?
Alors, je voulais juste rebondir, parce que dans votre
dernier
livre...
Ah, et là, Laurence va nous lire un livre de 900 pages.
En fait, Laurence, vous ne répondez pas aux questions, vous rebondissez. Je vais vous répondre, mais d'abord... Allez-y.
Je lis beaucoup de livres, c'est sûr. Non, mais le vôtre, donc, j'ai commencé à le parcourir, et je me suis arrêtée tout au début sur quelque chose d'intéressant, donc, qui était des robots, donc un concours sur l'évolution qui avait lieu à la Sorbonne. Donc déjà, ça m'a fait pas mal rire. Ensuite, le candidat 67 qui se présentait le projet Android pour une conscience artificielle des robots.
Voilà.
Donc on était en plein dans le scope. S'il était sélectionné, il pensait pouvoir faire franchir une étape déterminante à la machine, la perception de la notion du moi. Donc, hop.
Ce qui est l'enjeu. L'enjeu actuel, c'est que la machine ne sait pas le moi.
Oui, mais c'est un enjeu un peu science-fiction.
C'est un peu son métier.
oui, c'est pour ça que je rétablis. Et donc, vous dites, ce serait le passage de l'IA à la conscience artificielle. Et j'ai bien aimé la suite, pour rebondir sur les psys. Si les robots délirent, on peut poser la question, eh bien, dans ce cas-là, il faudra inventer des psychologues pour les robots.
Mais je crois qu'on y est déjà. C'est-à-dire, c'est des systèmes qui surveillent d'autres systèmes. L'intelligence artificielle est toute proche de passer à la conscience artificielle. C'est-à-dire que le grand enjeu de toutes les espèces vivantes n'est pas l'intelligence, c'est la conscience. Élargir la conscience. Et pour les robots, on est en train de sortir de la zone d'intelligence et de passer au niveau de conscience. Maintenant, la problématique, c'est quand l'ordinateur ou le robot aura pris conscience qu'il existe, est-ce qu'il aura peur de mourir ? Est-ce qu'il se sentira en rivalité avec l'être humain ? Est-ce qu'il aura envie d'être immortel ? C'est trois enjeux de science-fiction, mais je Exactement. Pense que vous allez être confrontés.
Vous vivez ailleurs tous les deux, là, Bernard et Laurence, là.
Mais on va parler après
l'émission.
Oui. Vous devriez même passer le week-end tous les deux. Hein.
Alors moi, je propose à mes camarades, puisque vous pouvez passer une commande, madame et chercheur au CNRS, si vous voulez un petit robot qui pourrait vous aider à faire deux, trois choses, n'hésitez pas à nous dire à quoi pourrait vous servir un robot dans votre vie, Sony.
Non, ça fait peur. Hein,
moi, mais le prochain, c'est Roméo.
La technologie. À part les crèmes anti-rides, je déteste la technologie.
Eh ben, un robot pour vous passer des crèmes anti-rides, c'est sympa.
Déjà, pour écrire les chroniques, c'était une bonne idée. Moi, je trouve que je prendrais.
Vous, David Salle, un robot, ça vous aiderait à faire quoi ?
Non, ça fait peur parce qu'on se dit qu'un jour, peut-être, le robot prendra le dessus sur l'être humain et l'être humain deviendra l'animal domestique du robot.
Alors pourquoi vous dites non avec autant d'assurance ? Vous n'avez pas vu les films de Spielberg, dites donc.
Bah justement.
Justement quoi ?
Bon, on n'est plus là, plus à ce temps-là. On est sur une évolution constructive. On essaye de travailler justement sur les fonctions, les usages des robots, essayer de comprendre comment on va les utiliser dans la société. Mais si vous écoutez un peu ce que disait Bill Gates en 2007, on en va bientôt en avoir tous dans notre maison. Hein. Donc il va falloir.
Il y a déjà des robots qui font le ménage en fait.
Ouais, voilà, on a des petits Roomba. Alors ça, c'est rigolo.
Ouais, ça s'appelle un aspirateur, hein,
non,
ça date
d'il y a longtemps. Ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Donc il se débrouille tout seul, il est autonome, l'aspirateur. Et ce qui va beaucoup plus loin, c'est la façon dont les gens ont acquéri cette nouvelle technologie. Il y a des gens qui vont dire, voilà, je leur donne un nom. Et si l'objet tombe en panne, ils ne veulent surtout pas qu'on le change pour un autre. Il faut réparer celui-là.
Ils se sont attachés à celui-là. Attachés, donc il y a de l'affect. C'est de ça qu'on parle hein, depuis tout à l'heure.
C'est ça qu'on parle.
Les poupées, des poupées qui parlent et qui sont amies avec les enfants, ça, on peut déjà le fabriquer. Tout à l'heure, elle évoquait les Barbies. Il va y avoir des Barbies qui vont dire bonjour à l'enfant et qui vont commencer à discuter
déjà,
avec l'enfant.
Ça existe déjà. Il y a des poupées qui disent bonjour donc maman et tout.
Moi, je ne sais pas si c'est un jour.
Elle dit qu'il se parce qu'elle en a une, en fait. Elle ne le dit pas.
Je ne sais pas si un jour on pourra l'inventer, mais comme je n'ai pas de montre avec moi, j'aimerais bien avoir un robot d'environ 2-3 mètres de haut qui pourra toujours me donner l'heure, elle sera toujours avec moi. Je serai là, quelle heure il est ? Environ moins le quart. Et voilà, il sera avec moi toute la journée, tout le temps. Et dès que j'ai pas l'heure, je serai là, quelle heure ? Il sera là que pour ça. Bon. Ça sera excellent.
Merci beaucoup d'être venu nous voir et de nous avoir fait rêver. Laurence De Villers. On va écouter de la musique.
Oui, eux, ce ne sont pas des robots et ils n'ont pas besoin de robots pour écrire des chansons. Frédéric, Olivier, les frères Volovitch, ils se sont échappés il y a quelques années du groupe Les Vrigels. Alors avec un tel patronyme Volovitch, on pouvait s'attendre à de la musique folklorique ukrainienne. Non, 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 leur truc à eux, c'est la chanson chaleureuse, engagée, sincère, sans rire. C'est le titre de leur 4e album et c'est aussi le titre de leur chanson Volo.
Du trafic sans rire. Pour l'arrivée des courses épiques, je peux lire. Pour tout savoir, le Paris Turf. On m'a prévu le temps qu'il va faire, sans blague. Et sur les bords de mer, le creux des vagues. Tant que c'est pas moi qui fais du surf. Je ne sais pas vous, mais moi, on me prévoit tout et n'importe quoi. Si ça ne vaut pas le coup. Soi, si ça va de soi, si ça va de soi, je ne sais pas vous, mais moi, on me prévoit tout et n'importe quoi. Si ça ne vaut pas le coup ou si j'ai le choix, à chaque fois. On m'a prévu un gros tirage d'enfer,
une deuxième chance au grattage et joker.
Si j'avais pas toujours perdu. On m'a prévu des jours fériés, merci.
Défilé du 14 juillet aussi.
Tant que c'est pas dans ma rue.
Je ne sais pas vous, mais moi, on me prévoit tout et n'importe quoi. Si ça ne vaut pas le coup, si ça va de soi, si ça va de soi, si ça va de soi. Je ne sais pas vous. Chaque fois. On a prévu tout un programme, c'est cool. Des émissions en prime time, ça roule. Si je m'achète une télé un jour.
On m'a prévu des sponsors partout, trop fort.
Des matchs et tout le temps, c'est fou le sport. Tant que c'est pas moi qui cours. Je ne sais pas vous, mais moi, on me prévoit tout et n'importe quoi. Si ça ne vaut pas le coup, si ça va de soi, si ça va de soi, si ça va de soi. Je ne sais pas vous, mais moi, on me prévoit tout et n'importe quoi. Si ça ne vaut pas le coup, si j'ai le choix. À chaque fois.
Volo, Frédéric, Olivier, les frères Volovitch avec leurs musiciens Hugo, Cyril et Enrico. Volo sera en concert à Annonay le 5 avril, à Avignon le 6, à Besançon le 24 avril, à l'Olympia à Paris le 29 et au Festival Paroles et Musique à Saint-Étienne le 31 mai.
Merci, merci beaucoup. Je rappelle que Bernard Werber est notre invité. Alors c'est vrai que bon ben voilà dans ce livre c'est pas un manifeste écolo hein, troisième humanité, mais enfin il y a quand même un message très très clair et c'est un message qui concerne beaucoup de gens autour de cette table et je peux vous présenter Sonny Chan qui est chroniqueuse de son état mais qui se sent très concernée par la planète. Mesdames et messieurs, Sonny Chan.
La tour Eiffel, la tour Eiffel, dans mon yin tong sang gum. Bernard Werber, permettez-moi de me présenter. Je suis originaire de Hong Kong. Je déteste les Chinois de la Chine. Quand un homme lubrique m'agresse, je pleure de joie. Je suis la chroniqueuse de droite de France Inter. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler d'un livre qui allie fiction et écologie. La Terre va mal. Comme je m'identifie à la planète, puisque vous dites, je cite, « Elle est devenue un objet dans lequel les uns font des trous ». Selon vous, les bouleversements climatiques, les catastrophes naturelles ne font que manifester la colère de la nature face à cette maltraitance. De façon identique, nos corps réagissent aux agressions extérieures telles que pollution, stress, alcool. Vous constateriez les dégâts en voyant les visages ravagés de mes collègues. Vous avez une théorie sur le rapetissement des espèces en citant l'exemple du dinosaure disparu, devenu un petit lézard. Je confirme cette thèse avec deux exemples concrets du rétrécissement. La taille de mon conjoint et mon bonnet A. Avec mon mari, nous hésitons beaucoup à faire un bébé par peur de produire une fille à la poitrine concave. Vos œuvres me font poser la question suivante. Quand allons-nous enfin changer notre mode de consommation par respect de la planète, par respect de nos enfants ? L'alimentation de la population mondiale sera une des questions clés de notre survie. Heureusement, contrairement aux Blancs, mes compatriotes ont eu l'idée de génie de transformer la fleuve de Shanghai en une gigantesque marmite de soupe de porc avariée. En 2006, vous avez parlé de votre célibat en disant que les compromis qu'impose la structure de couple vous empêchaient de travailler tranquillement. Oh.
J'ai dit ça ?
Oui, mais je suis votre femme idéale. Je vous ficherai une paix royale du moment où vous me laissez votre carte de crédit. De surcroît, je suis aussi une grande solitaire, car la compagnie de l'homme m'empêcherait de vivre mon amour pleinement avec moi-même. Enfin, vous comparez l'écriture au sexe. Votre cœur accélère et une jouissance vous envahit. Très bien, mais essayons. Alors, je prends mon stylo rose Hello Kitty et j'écris. Alors, Toto est interrogé par la maîtresse. Peux-tu me dire comment se reproduisent les hérissons ? Alors, je le sens, je le sens. Toto répond en faisant très, 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 très attention. Oh my god, c'était bon.
Merci. Salut.
Bravo pour cette démonstration du pouvoir de l'écriture.
Et oui, Bernard, c'est vrai que vous l'avez dit. Alors, du coup, on essaie tellement d'imaginer un écrivain en train d'écrire que c'est vrai que ça fait fantasmer. Vous avez dit que ça pouvait être comme comme un orgasme.
En tout cas, c'est un plaisir. Déjà, je crois que si l'écrivain n'a pas de plaisir à écrire, le lecteur ne va pas avoir de plaisir à le lire. C'est un acte de joie, l'écriture. Maintenant, ça n'empêche pas la sexualité en dehors de
il fait passer de des messages, littérale. Bernard. Il fait passer des messages. Mais c'est vrai
que. Je sens que je vais me pousser, moi, parce que.
Vous êtes entre les deux
en même temps. Les deux ont leur charme.
Non, mais c'est vrai que vous avez dit parfois, et à jeun, sans drogue, sans alcool, vous pouvez être dans un état modifié de conscience. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous êtes tellement embarqué dans l'histoire. Que d'un coup vous redescendez quoi.
En tout cas j'oublie le temps, c'est-à-dire je suis c'est comme un rêve en fait, c'est-à-dire je suis projeté dans le rêve, d'un coup je sors du rêve au moment où le chapitre se termine et je regarde ce qui a été écrit. Mais ça c'est à force d'écrire, c'est-à-dire ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais ça tous les matins 8h à midi et demi. Le seul fait de faire un acte régulier, répété tous les jours, au bout d'un moment ça devient une sorte d'automatisme. Et je suis projeté, en effet, dans un rêve qui est l'écriture elle-même.
Bon, et alors, donc, vous avez fait une exception pour nous, du coup ? Parce que quelle heure il est, là, vous êtes jusqu'à midi et demi.
Oui, 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 oui. Mais je vais réécrire cet après-midi, du coup, pour compenser la perte.
Il faut rattraper.
Mais attendez, je veux dire quand même une chose assez étonnante. J'ai terminé hier le troisième volume de Troisième Humanité, parce que j'en ai un d'avance. Donc, j'ai terminé hier, donc j'ai une petite journée de vacances.
Ah, vous avez droit. C'est voilà. Aujourd'hui, passer vacances mais, avec nous. Mais,
oh, c'est mignon.
Merci. C'est ma petite journée de transition avant demain de reprendre la réécriture.
Il se donne des RTT.
Les vacances de Bernard Werber continuent sur France Inter dans un instant avec nous. Non, on va tous y passer. Merci beaucoup Laetitia Gaillé. Retour en direct dans le studio 106 devant un public chaleureux. Notre invité Bernard Werber. Avec aujourd'hui la chercheuse en informatique Laurence De Villers et mes camarades qui sont là, Joséphine Dray, David Salle, Thomas VDB, Sonny Chang, Daniel Morin, Monsieur Previously. Et Richard Lonnac. Richard Lonnac, un mot.
Nous sommes très fiers, vraiment très très fiers d'accueillir aujourd'hui les classes de seconde du lycée Léonard de Vinci à Amboise. Amboise.
C'est vrai qu'on est très fiers de recevoir les gens d'Amboise. Très très fiers, ah ouais. C'est le mot. Alors Bernard Werber, on a parlé de Troisième Humanité, votre roman qui cartonne déjà. Est-ce que c'est vrai que, c'est pareil, est-ce que c'est une formule que vous seriez déçu si on vous apprenait comme ça tout de go que les extraterrestres n'existent pas?
Oui, parce que ça voudrait dire que tout l'enjeu se fait sur cette planète et que si jamais nous nous plantons sur la Terre, il n'y a plus rien ailleurs. Chaque fois, en fait, les extraterrestres, on se dit ils ne vont pas rentrer en contact avec nous, mais tout le monde pense qu'ils existent. Mais imaginons qu'ils n'existent pas, ça veut dire qu'il n'y a que ici qu'il y a eu cet accident extraordinaire de la vie, de l'intelligence et de la conscience, et que si, par exemple, on fait une guerre atomique ou on se prend un astéroïde, tout s'arrête et après, il n'y a plus rien. Et cette idée-là, je la trouve vraiment vertigineuse. C'est pas angoissant, c'est vertigineux. On se dit tous, on va crever, mais les autres vont continuer le feuilleton. Mais si on se dit, il n'y a plus rien après, là c'est une autre idée. Mm-hmm. Et ça nous oblige à être écolo. Enfin, écolo dans le bon sens du terme. Ça nous oblige à nous poser des questions sur qu'est-ce qu'on fout là et comment se comporter bien.
Et vous répondez quoi à cette question, Thomas VDB? Qu'est-ce qu'on fout là?
Non, mais c'est vrai que c'est vertigineux, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est pas plus vertigineux que ça l'était au moment du Big Bang, quand on se dit, mais il n'y avait rien, et donc on était là, parce qu'il n'y avait vraiment rien. Si. Je me suis renseigné, il n'y avait rien du tout.
D'après
mes infos.
Il devait y avoir un peu d'énergie concentrée qui a explosé.
Exactement, je vous testais. Il y avait un peu d'énergie concentrée.
Bon, effectivement.
Il y a un moment où le feuilleton de la vie a démarré, enfin, le feuilleton de la matière, de la vie, de l'énergie a démarré, et donc il devait y avoir quelque chose avant.
Vous êtes convaincu que, enfin, vous êtes capable, vous en tant qu'être humain, de communiquer avec la Terre. Vous nous dites ça.
Certains
personnages font ça avec de la drogue, mais
mes personnages le font. Mes personnages font du retour en arrière dans les vies antérieures. Mes personnages retrouvent l'Atlantide. C'est le grand avantage du roman, c'est que je suis pas obligé de prouver ce que je raconte. C'est juste, je donne des idées au lecteur. Après, le lecteur, il en fait ce qu'il en veut par rapport à ses convictions personnelles.
Et vous communiquez pas avec les arbres?
Non, mais par contre, je sais une chose, c'est que si je vais pas bien et que je touche un arbre, l'arbre agit comme une sorte de d'antenne radio.
Moi, je le savais, c'est un bug de neuf.
Non, mais je crois que nos ancêtres le savent depuis très longtemps. Dans toutes les cultures, on dit que les arbres nous apportent de la bonne énergie.
Bon, nous, quand on va pas bien, on le touche tout le temps. D'ailleurs, hein, c'est Daniel Morin. Il est à votre gauche, mesdames, messieurs, Daniel Morin.
Chers collègues, robots blagueurs et déconneurs, cher public, robot sensuel qui m'excite et me met en sueur, bonjour !
Bravo !
Bravo ! Être catho, c'est tendance et de plus en plus. Le nouveau pape, chaque fois qu'il ouvre sa fenêtre, il y a 100 000 personnes en dessous qui hurlent comme s'ils voyaient Lady Gaga à poil. En France, les cathos se font gazer en famille sur les Champs-Élysées. Eh bien, la folie continue avec très bientôt à Lyon la création de la première Starac catho. Ce n'est pas une blague, tout ça va se passer en face de l'église Sainte-Blandine. C'est une idée du groupe Glorious pour faire bosser des jeunes de 18 à 25 ans pour au final enregistrer un album de pop louange. Est-ce que le rock est compatible avec la vie catholique? Je vais demander ce qu'il en pense à mon invité, à moi, le charismatique Philippe Manœuvre. Philippe, bonjour.
Salut Dan.
Alors Philippe, vous en pensez quoi de cette future Starac catho?
Ah mais c'est génial Dan.
Pouvez nous dire en deux mots, pourquoi c'est génial?
Ah mais carrément, mec!
Oui, bon, bah allez-y!
Ah oui, pardon! Mais c'est génial parce que Jésus, il était rock! Il était hippie et grunge à la fois, mec! Cheveux longs à la Jim Morrison, barbe de 15 jours à la Maxime Le Forestier, des fringues à la Demis Roussos, voilà!
Oui, d'accord, Philippe, mais vous n'avez pas peur que la drogue, très présente dans le milieu du rock, n'atteigne et ne salisse les fans de rock catho?
Ah mais carrément trop pas, Dan!
Et pourquoi?
Mais parce que Jésus, après la crucifixion, c'est le modèle anti-drogue, Dan!
Désolé, je vois toujours pas pourquoi, Philippe.
Non mais allô, quoi! Allô, Dan, allô. Mais parce qu'il avait des trous dans les mains, mec. Et avec trous dans les mains, avec des trous dans les mains, tu peux pas rouler de joint, tu fais tomber tout le shit.
Ah, ok, ah, je comprends maintenant. Et vous croyez que ça peut prendre l'ambiance kato dans le milieu rock?
Ah mais grave, mec, mais c'est mystique, ça va cartonner.
Merci, Philippe.
Mais de rien, Dan.
C'est vrai que c'est une recette qui fait ses preuves, la Starac. Alors, pourquoi pas une reprise avec, pour toile de fond, des événements chers aux catholiques. Je me baladais sur l'avenue sans le faire exprès, j'ai changé de rue. J'étais en train de manifester contre le mariage gay. Je suis tombé sur des CRS, regards méchants, matraque épaisse, qui m'ont dit maintenant recule, sinon on bouscule. Aux Champs-Élysées, je me suis fait gazer. Des mandales et puis des pains, j'en ai reçu, j'étais pas bien, et j'ai fini par m'évanouir sur Christine Boutin. Alors si ça se trouve, en plus, il y a des légendes du rock qui vont s'y mettre à la cato-attitude. Regardez Johnny Hallyday, il a bien chanté « Oh Marie », Johnny qui a même chanté « Jésus », souvenez-vous.
Jésus, Jésus-Christ.
Ah ouais, on a trop vite oublié, mais s'il y a un nouvel élan, peut-être que Johnny va s'y remettre. Une mélodie à lui, des paroles divines et hop, l'affaire est dans le sac.
Il est né le divin enfant, joué au bois, résonne et musette. Oui, chantons tous, chantons son avènement. Ah, qu'il est beau, ah, qu'il est doux, ah, qu'il est frais, ah, qu'il est charmant. Oui, il est né, oui, c'est le divin enfant.
Pas mal, hein. Et regardez, en même temps, merci pour lui. Ouais. Ce genre de chanson, c'est pas gagné parce qu'avec toutes ces nouvelles paroles, il est capable de s'embrouiller de Johnny. Non, Johnny, il lui faudrait quelque chose de plus simple à se souvenir. Mais ça peut le faire.
Dominique, Nick, Dominique, Nick, Dominique, Nick, Nick, Nick.
Ça claque, non? Allez, Dieu vous bénisse, à demain. Daniel Morin.
Alors, Bernard Werber, vous êtes notre invité, je le rappelle, on parlait de troisième humanité, et je le dis à ceux qui nous rejoignent. Et comme je suis en train de regarder la pendule pendant que je regarde mes fiches, je suis en train de me demander si j'ai temps de parler avec vous avant d'écouter de la musique. Et c'est donc normalement le producteur qui me fait signe que non. Donc ça m'a permis juste de faire une petite pirouette. Tout va bien, ça se passe bien?
Oui, oui.
Bon, on va écouter de la musique avec Marion.
Oui, ils reviennent, le duo Volo, non pas pour une reprise de Joe Dassin ou de Johnny Hallyday, c'est fait par Daniel Morin, mais pour une reprise d'Alain Souchon, Allô Maman Bobo, avec Richard Lornac au piano, Volo.
Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait? Je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Je traîne fumé, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du musical, je suis mal à la scène et mal en vie. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait? Je suis pas beau. Allô maman. Moi je voulais les sorties de port à la voile, la nuit, barrer les étoiles. Moi les chevaux, le revolver et le chapeau de clown. La belle Peggy du salon. Je suis mal en homme dur et mal en petit cœur. Peut-être un petit peu trop rêveur. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait? Je suis pas beau. Allô maman. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo, allô maman, bobo, allô maman, bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo, allô maman, bobo.
Bravo à Volo, à ses musiciens et à Richard Lornac au piano. Leur nouvel album Sans Rire est déjà disponible. Je vous redonne deux dates de concert. Ils seront en concert au Mans le 17 avril, à Rennes le 18 et à l'Olympia à Paris le 29 avril. C'était trois.
Merci, merci beaucoup. Alors Bernard Werber, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des fourmis. C'est bien la première fois dans votre carrière qu'on ne parle pas des fourmis. Donc, on va essayer de ne pas le faire. C'est vous qui allez décider si vous en parlez ou pas. C'est ce succès extraordinaire en France, évidemment. Vous savez que ça a été 12 ans d'une vie, 154 versions, c'est ça?
Oui, sur les fourmis, oui, j'aurais écrit à peu près ce nombre-là. Ouais.
Et alors, vous savez qu'on est en contact avec Hollywood, ils voudraient faire un film sur votre vie extraordinaire. Il nous faut quelques images pour la bande-annonce, c'est vous qui choisissez. Richard Lindac va assurer la bande originale du film de votre vie. C'est parti, on rentre dans la vie de Bernard Werber.
Bon, alors j'ai quand même démarré par les fourmis, et ça va être en Afrique, en Côte d'Ivoire, où je suivais des colonnes de magnans.
Vous avez quel âge ?
J'avais 20 ans. Et je suivais, donc c'est des fleuves entiers de tout noir, de fourmis aveugles avec d'énormes mandibules qui détruisent tout sur leur passage. Ça coule là, le fleuve. Et à un moment, les fourmis s'étaient arrêtées. On a creusé autour une tranchée. Et à l'époque, donc c'était le thème de mon reportage, j'essayais de photographier la reine. Elle est très grosse, elle fait à peu près la taille d'un doigt. Et on a creusé à l'intérieur de la cité. Et malheureusement, j'avais pas les bonnes chaussures. Et donc, j'ai commencé à être recouvert de fourmis alors que mes collègues avaient des bottes. Et j'étais entièrement recouvert de fourmis. Je suis arrivé à photographier la reine. Et alors que j'essayais de protéger mes orifices, à savoir mes oreilles, mes trous de nez, ma bouche, et je serrais les fesses, les collègues m'ont sorti en me disant « Attends, tu es resté trop longtemps, maintenant tu es en danger. » Et donc, ils m'ont sorti de là.
Image
donc, la première
très
scène, Côte d'Ivoire.
Un film américain, scène très forte. Autre image.
La deuxième image, c'est l'Inde. J'étais en voyage de noces et il y avait écrit sur le guide du routard, c'est au Népal, si vous avez trouvé l'Inde un peu sale, le Népal est plus sale encore. Donc on est allé dans l'hôtel qui était le Grand Palace, on s'est dit allez, on va se payer un truc vraiment clean. Et on arrive dans la première chambre et c'était entièrement recouvert le plafond de cafards. Et on dit ça va pas aller parce qu'il y a vraiment beaucoup de cafards. On fait, ah bon, vous voulez pas de cafards ? On nous amène dans une autre chambre, partout des cafards aussi. Troisième chambre, encore des cafards. Je dis, écoutez, je crois qu'on va laisser tomber cet hôtel. Le plafond était noir de cafards. Et il me dit, ah, vous voulez pas de cafards ? Il nous amène dans une quatrième chambre, et là, il n'y a pas un seul cafard. Alors je dis, bon, bah, je crois que vous avez trouvé, en effet. Je ne comprends pas que dans l'hôtel, toutes les chambres ont des cafards, sauf une. Et là, on commence à s'installer avec ma compagne. Et puis tout d'un coup, elle me dit, ne bouge pas, je crois avoir compris pourquoi il n'y a pas de cafards. Et je tourne légèrement la tête et je tombe devant un énorme rat blanc qui me regarde. Et en fait, ces rats qui étaient dans cette chambre bouffaient tous les cafards. Et je vois le rat blanc, on se regarde tous les deux. Et le rat blanc s'enfuit et en fait, il est allé dans le matelas et tout le matelas était rempli de rats. C'était un nid de rats. Et on a dormi sur ce nid de rats. Et je me rappelle, on avait des sacs de couchage et je sortais juste le nez du sac de couchage. Et ça bougeait à l'intérieur du matelas.
Ah, mais là, on est dans Indiana Jones. Là, le film a cartonné.
Et le lendemain matin, j'ai dit quand même à la réception, je leur ai dit, écoutez, là, il y avait un problème, c'est pas de cafard, mais de rat. Vous devriez faire quelque chose. Et il me dit, ah, il y avait des rats, excusez-nous, on a une chambre sans cafard et sans rat. Je fais,
il fallait demander. Allez, une dernière image.
La dernière, c'est presque une comédie. C'est ce qui m'est arrivé au Japon. Au Japon, il y a mon traducteur, il me dit, on va vous inviter à dîner, on va vous faire un super plat qui va vous plaire. Quel est votre plat préféré ?
Alors je lui dis, ben c'est les sushis, je mange des japonais tous les jours. Il me dit, des quoi ? Je fais des sushis. Il me dit, vous savez, nous au Japon, on ne mange pas de sushis. Les sushis, c'est pour les fêtes, c'est pour les anniversaires. Mais sinon, tous les jours, on ne mange pas ça. Je fais, vous aviez prévu quoi pour moi ce soir ? Il me dit, ben steak frites. On m'a dit que les Français aiment que les steak frites. Donc, mais il ne voulait pas perdre la face. Donc il me dit, c'est pas grave, vous allez avoir des sushis. Et la femme est allée acheter des couteaux. Elle a eu pour 15 000 euros de couteaux, mais vraiment exprès pour les sushis. Elle a acheté le guide comment faire des sushis en 10 leçons, parce qu'elle n'avait pas en faire, évidemment. Et on nous a servi les sushis. Or, les sushis, il faut les couper dans un certain sens de la fibre, et elle ne savait pas le faire. Donc, on était tous à mâcher ça comme du chewing-gum et à recracher le plat. Donc, j'ai découvert que les Japonais ne mangeaient pas de sushis. Ils mangeaient sec frites.
Le voyage de Bernard Werber. Avec Richard Larnac à la musique, merci beaucoup. Alors, vous faites partie de ceux, vous répondez aux lettres de vos lecteurs ou pas du tout ?
Alors, au début, je répondais, après c'est impossible. Donc, je n'ai pas envie d'utiliser quelqu'un qui réponde à ma place. Par contre, j'utilise Facebook. Et sur Facebook, ce qui est intéressant, c'est que les internautes m'envoient de la documentation, des idées. Donc maintenant, ils sont ma source d'information. Et ça, je trouve que cet échange est fabuleux. Et Facebook me permet aussi d'avoir des avis sur le livre. Parce que, vous savez, on sait le nombre de livres qu'on a vendus, mais on ne sait pas combien de lecteurs sont satisfaits.
Bon, merci d'avoir été honnête, en tout cas, en disant voilà. Que vous ne répondiez pas. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous a écrit et sa lettre est restée sans réponse. Et il voulait vous en parler, mesdames et messieurs. David Salle. Okay.
Oui, Bernard, bonjour. Enfin,
David, voilà, désolé d'avoir oublié de te répondre. Alors, je
mais oui, non, mais c'est pas grave. Mais je comprends. En même temps, tu dois en avoir un sacré paquet.
Je vais te répondre maintenant.
Bon, je peux te la lire comme ça.
Vas-y.
Merci, cher Bernard. Voilà, je viens d'un petit village situé au fin fond de l'Ariège, dont la devise est ici. Vous allez tous y passer, et peut-être par chance, vous repartirez un peu modifié. Un petit village de quelques âmes, récemment rebaptisé Utopiagnos et autoproclamé ville libre et autonome, régie par un gouvernement dans lequel chaque villageois dispose d'un poste à responsabilité. Il y a 6 mois de cela, notre président, le petit géant des petits rien du tout qui font le tout, comme on le nomme chez nous, nous a quittés. Il nous a tous réunis et il nous a dit « Je sais bien que j'ai été nommé à vie dans cette communauté, mais là je ne tiens plus, 30 piges à bouffer des racines, c'est bon, là je parle vers d'autres horizons, je vais bouffer de la viande de l'eau, je me taper des putes et m'acheter un gros 4x4. Alors voilà, je me suis réuni avec moi-même, je vous annonce que mon successeur légitime au village ici est Bernard Werber. » Il saura modifier vos us et coutumes et vous mènera vers une vie meilleure. Moi, je ne suis plus à la hauteur. Il a fini de nous parler et il est parti dans sa 2 chevaux à pédales. Et on l'a regardé s'éloigner, et on a regardé s'éloigner cette phrase qu'il avait inscrite sur son pare-choc arrière au début de son intronisation en 68. Il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant. On a juste vu cette phrase s'éloigner pour ne devenir qu'un point et puis plus rien. Et à la suite du traditionnel tour de claque dans la gueule qui nous permet de stimuler les esprits et ainsi prendre les décisions importantes, nous avons validé la suggestion du petit géant. J'ai donc l'honneur de vous annoncer, Bernard Werber, que vous êtes l'heureux élu, le successeur légitime de notre président ici à Utopiagnos. Bernard, toute la population d'Utopiagnos est heureuse de vous offrir une résidence à vie dans son petit village paisible de l'Ariège. Vous profiterez ainsi d'un hébergement à vie dans une de nos traditionnelles maisons en bois complètement autonome avec éoliennes, panneaux solaires et récupérateurs d'eau. Dès votre arrivée, un cocktail de bienvenue vous sera offert par notre ministre de l'évasion, spécialiste en décoction et champignons en tout genre, Jackie VDB, pour un voyage sensoriel unique. Vous serez ensuite accueilli par notre ministre chargé de la bienveillance collective, Max Lopez. Puis nous vous accompagnerons dans votre chambre des rêves où vous aurez le plaisir de vous faire manipuler par les mains expertes de nos ministres du bien-être, Mesdames Dry et Chan. Ensuite, lors de votre première nuit, si vous le désirez, nous vous proposerons par le ministre de l'amour universel, Dan Morin, la traditionnelle compote de cul. Et le lendemain de ces deux grands jours de fête, vous serez intronisé ici, dans notre village. Nous organiserons une grande partie de loup-garou que vous affectionnez particulièrement.
En effet.
Et à la suite de cette partie, vous opérerez un remaniement ministériel si vous le jugez nécessaire et vous nous indiquerez les nouvelles lois à appliquer sur le champ. Avec vous, Bernard, on le sait, ce sera amour, humour, écrit et sexe à volonté.
Yes.
David Seul. David Salle et certains de mes camarades sont sur scène en ce moment. Allez les voir, on va tous y passer. C'est le nom de l'émission, donc sur la page de l'émission, sur le site de France Inter. Merci à notre invité Bernard Werber, merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous. Troisième humanité, merci à Laurence De Villers, chercheur en informatique, qui nous a fait partager ses rêves. Et puis merci à mes camarades, monsieur Prévussy, le mot de la fin.
Oui, Frédéric, un mot pour dire aux auditeurs que demain nous retrouverons Roland Giraud. Venez nombreux, humains ou robots, rendez-vous à 11h, porte B de la maison de la radio.
Merci beaucoup, tout de suite sur France Inter, Carnet de campagne avec Philippe Bertrand. À demain.